Seigneur, le message que tu vas lui communiquer, pour pouvoir saisir la pensée que tu vas lui donner. Seigneur, merci. Parle-nous, fais-nous bien, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas de place tout autour de l'église. En tout cas, nous aimerions nous excuser, car il est tout à fait inacceptable que des gens se déplacent pour venir rencontrer le Seigneur et qu'ils ne soient pas mis dans des conditions qui puissent leur permettre de louer et d'adorer le Seigneur. Nous voulons vous présenter nos excuses et vous dire que le dimanche prochain, en tout cas, personne ne restera debout. Alléluia. Nous allons tout faire pour augmenter le nombre de places en attendant que nous puissions vous présenter le projet donc d'agrandissement, parce que de dimanche en dimanche, de réunion en réunion, les gens viennent de plus en plus et nous rendons donc grâce à Dieu pour tout ça. Et sachez que le dimanche prochain, nous ferons tout pour résoudre donc ce problème. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un passage que nous avions déjà lu il y a quelques semaines d'ici, à savoir 2 Timothée chapitre 2, les 9 premiers versets. Et notre thème de ce matin est « Sois un athlète qui court selon les règles ». Amen. Sois un athlète qui ne court pas l'aventure, mais qui a un objectif clair devant lui. Un athlète qui court selon les règles, car c'est seulement en courant selon les règles qu'alors l'athlète, au terme de sa course, pourra recevoir de la part de celui qui a organisé la compétition un prix, une coupe, une couronne. Sois un athlète qui court selon les règles. Tel est donc notre thème de ce matin. 2 Timothée chapitre 2, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 9. « Toi donc, mon enfant, dit l'Écriture, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. » Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons pris 2 dimanches, pour parler de la première image que l'apôtre Paul utilise, image qu'il utilise pour illustrer, pour exprimer la réalité de la vie spirituelle, la réalité de la marche avec Dieu. C'est l'image du soldat, qui est donc appelé à être un bon soldat, mais qui doit aussi jamais oublier qu'il est un soldat en campagne, et non pas enfermé dans un camp, ni dans une caserne, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du chrétien comme étant celui qui est appelé, à l'instar de tout athlète, appelé à courir, non pas à l'aventure, non pas selon tel ou tel autre principe du monde, mais selon les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Au risque de me répéter, et même de fatiguer certains, je reviens une fois de plus sur cette portion des Saintes Écritures pour attirer votre attention cette fois-ci sur la deuxième métaphore, la deuxième image que l'apôtre utilise pour, comme je le disais, illustrer le véritable statut de tout enfant de Dieu, pour exprimer la réalité d'être véritablement enfant de Dieu. C'est donc l'image de l'enfant de Dieu appelé, à l'instar de l'athlète, à courir, à lutter selon les règles, et ce, dans le but de recevoir enfin une couronne de la part du Seigneur. Donc il ne s'agit pas de courir pour le plaisir de courir, mais il s'agit de courir, frères et sœurs, avec un objectif clair, remporter le prix, recevoir la coupe et être couronné par le Seigneur de gloire. Cette métaphore se rapporte très clairement à des compétitions athlétiques comme celle des Olympiades qui sont organisées tous les 4 ans, par exemple, dans la Grèce antique, et plus tard dans la Rome antique. Et lors de ces compétitions romaines, puisque nous sommes à l'époque romaine, eh bien, une couronne de laurier était réservée à tout compétiteur qui arrivait au terme de sa course et qui remportait le prix. Celui-là recevait donc une couronne de laurier. Et cette couronne de laurier symbolisait le triomphe et l'honneur et était le prix le plus convoité dans la Rome antique. Les gens se préparaient, s'imposaient toutes sortes d'abstinences. Les gens s'imposaient toutes sortes de disciplines dans le seul but de remporter le prix et de recevoir de la part des autorités romaines une couronne de laurier. Et la personne qui arrivait à gagner cette course, selon les règles établies, les règles de jeu, eh bien celui-là triomphait et recevait les honneurs, non seulement de la part de ceux qui organisaient ce genre de meeting ou de compétition, mais aussi de la part des autres. Gloire au Seigneur. Amen. En recourant à cette image métaphorique de la lutte sportive, la parole de Dieu cherche à faire comprendre à chacun de nous, mes amis, une vérité. Et j'aimerais m'attarder davantage, attirer votre attention sur cette vérité-là. Quelle est cette vérité sur laquelle le Saint-Esprit aimerait attirer notre attention lorsqu'il inspire son serviteur à recourir à cette image d'un athlète qui court d'après les règles, et ce, en vue d'obtenir un prix. Eh bien, comme dans la lutte sportive, où l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a couru en respectant les règles, que s'il a couru selon les normes telles qu'elles étaient établies, eh bien, de même, tout chrétien, quel qu'il soit, tout celui qui se réclame de Jésus-Christ, tout celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, eh bien celui-là est appelé à lutter dans sa marche avec le Seigneur, à courir dans la vie spirituelle, eh bien en respectant les règles telles que le Seigneur les a établies dans sa parole. Donc, il est important non seulement de savoir que nous nous sommes lancés dans une compétition, il est important de savoir que nous sommes certes dans une course, mais encore, il est important de savoir quelles sont les règles qui régissent cette course. Autrement, nous risquons de nous disqualifier, n'est-ce pas? Nous risquons, tout en croyant que nous courons, effectivement, nous serons en train de courir, mais sans les normes, sans les règles telles que le Seigneur les a établies. Gloire au Seigneur. Comme vous le savez, chers amis, chaque événement sportif a ses limites, a ses règles. Que ce soit le sport collectif comme le foot ou le basket, que ce soit un sport individuel, le sport individuel comme l'athlétisme, eh bien chaque discipline sportive a ses règles, il a ses limites. Vous ne pouvez pas aller au-delà si vous voulez gagner le prix, si vous voulez remporter la coupe. Gloire au Seigneur. Amen. Et tous ceux qui ne respectent pas ces règles, tout ce qui ne reste pas dans les limites telles qu'elles ont été fixées, eh bien ceux-là, quoique courant, ne pourront jamais remporter la course, ne pourront jamais arriver au terme de leur compétition. Pourquoi? Parce qu'ils seront disqualifiés. D'où alors la nécessité, mes amis, de savoir si vraiment la course dans laquelle nous sommes engagés est une course que nous sommes en train de poursuivre selon les règles comme le Seigneur les a établies. Car il ne suffit pas simplement de participer à une compétition sportive pour être vainqueur. Non, il y en a plusieurs qui s'engagent dans la course, mais trop peu arrivent au terme de la course et trop peu finissent par recevoir la couronne. Nous devons savoir, chers amis, que la vocation de tout enfant de Dieu, quel qu'il soit, eh bien, c'est de lutter, c'est de combattre, c'est de courir non pas à l'aventure, mais selon les règles bien claires, règles que nous trouvons dans la parole. C'est seulement ce prix-là que nous pourrions recevoir, in fine, la couronne. Cette couronne de justice, cette couronne d'or, cette couronne de vie, dont nous en parlerons plus tard. Puisqu'il en est ainsi, alors faisons tout pour courir dans le but de remporter la couronne, en respectant les règles du jeu, en respectant les limites, comme le Seigneur les a fixées. Et ces règles n'ont rien à voir avec toutes ces règles de telle ou telle autre religion. Il ne s'agit pas de courir selon la manière dont tel ou tel autre prophète a donc déterminé la course, selon telle ou telle autre règle de telle ou telle autre religion, même monothéiste. Non, nous risquons de nous disqualifier. Voilà pourquoi dans cette course, comme dans le combat dans lequel nous sommes engagés, la Bible nous exhorte à n'avoir les yeux que fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Et jamais sur un homme, et jamais sur une église, et jamais sur une religion. Car aucune religion ne peut vous aider, mes amis, dans cette course-là. C'est une course de la vie vers l'éternité. C'est une course, c'est une compétition. Il y en a trop peu. Trop peu, comme le Seigneur lui-même l'a dit, qui finiront par arriver au terme de cette course et par recevoir la couronne. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, eh bien, va donc, à propos de cette course, leur dit ceci. Il leur dit quoi? Il leur dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Alléluia. Et il ajoute, courez de manière à remporter le prix. Donc il ne s'agit pas simplement de se lancer dans la course. Il ne s'agit pas simplement de s'aligner, mes amis. Mais encore, il s'agit de s'aligner et de se lancer dans cette course en respectant les règles telles que le Seigneur les a établies. Gloire au Seigneur. C'est en courant selon ces règles, qui sont les règles du royaume des cieux, qui sont les règles du Seigneur, que nous pourrions alors recevoir la couronne, que nous pourrions alors être récompensés en recevant la couronne. Cette couronne qui nous est présentée par la parole de Dieu comme étant une couronne incorruptible. Alléluia. Une couronne incorruptible, donc qui demeure éternellement. La couronne de justice, la couronne de vie, la couronne d'or, tant des termes magnifiques, splendides, sont donc utilisés pour qualifier cette couronne qui est réservée à tous ceux qui lutteront selon les règles, à tous ceux qui courront dans cette course selon les règles telles que le Seigneur les a établies. Couronne de vie, couronne incorruptible, couronne de gloire, couronne de justice. Voilà donc, mes amis, la récompense qui sera réservée au vainqueur. Au vainqueur, une couronne lui sera remise. Au vainqueur. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a qui se seront lancés dans la course, qui ne seront jamais arrivés au terme. Regardez autour de vous. Regardons autour de nous. Beaucoup un jour se sont lancés dans cette course. Mais quelque temps plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, eh bien, se sont disqualifiés. Il y en a qui ont abandonné. Vous en connaissez? Eh oui. Il y en a qui ont abandonné, happés de nouveau par l'amour du monde, oubliant ce que le Seigneur avait fait pour eux. Voyez-vous? Donc, il y a une récompense. Il y a une couronne qui est réservée à tous ceux qui iront jusqu'au terme de leur course. C'est comme dans le monde. Le monde a aussi des récompenses qu'il réserve à ceux qui vivent selon ses principes. Le monde donne aussi une couronne à tous ceux qui vivent selon ses règles à lui. Voyez-vous? Mais ce n'est que couronne éphémère, couronne de bois. Car la seule couronne qui demeure, c'est celle que le Seigneur nous donnera en ce jour-là. Ou du moins qu'il donnera à ceux qui auront combattu jusqu'au bout, à ceux qui auront lutté jusqu'au bout, à ceux qui auront couru selon les normes. Alléluia. N'oublions jamais, mes amis, que nous sommes dans un combat, mais aussi nous sommes dans une course. Et nous avons besoin de veiller, de tout faire pour que rien ne puisse entraver notre course. De veiller pour que rien ne puisse nous alourdir dans cette course. Nous débarrasser même de choses légitimes qui pourraient s'avérer dangereuses, qui pourraient nous alourdir, qui pourraient nous distraire et nous empêcher d'aller jusqu'au terme. Voyez, et de retourner à ce que nous avions vomi. Alors, quelques questions. Qu'est-ce que ça veut dire courir, lutter, combattre? Puisque différentes versions vont traduire le verbe courir tantôt par lutter, tantôt par combattre. Qu'est-ce que ça veut dire combattre, lutter, courir selon les règles? Les règles établies par le Seigneur. Où pourrions-nous le trouver? Et comment pourrions-nous courir après ces règles? Question importante, mes amis. Dans ce temps où on enseigne n'importe quoi, dans ce temps où les gens, certes, ont soif de choses divines, mais aussi l'ennemi fait tout pour les distraire, il est plus que temps que nous comprenions quelles sont les règles selon lesquelles nous devrions courir afin de recevoir la couronne en ce jour-là. Eh bien, courir, combattre, lutter selon les règles du royaume veut dire quoi? D'abord, il est important de comprendre ce que ça veut dire une règle. C'est quoi une règle? Une règle, c'est un principe de conduite, n'est-ce pas? C'est une manière de vivre. Une règle, c'est une loi. Voyez? Dans chaque maison, il y a des règles, n'est-ce pas? Oui ou non? Ah oui, quand vous arrivez, vous devez vous déchausser. Vous enlevez les chaussures, vous les laissez, vous entrez avec vos chaussettes. C'est une règle de la maison. La règle de la maison, quand on se réveille, les garçons, on fait son lit. Mais les filles aussi. N'est-ce pas? Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord. Tout s'apprend. Si vous n'apprenez pas à faire le lit chez vous à la maison, vous aurez des problèmes chez vous quand vous serez mariés. Tout s'apprend à la maison. Bref, ce sont des règles. Et vous ne pouvez pas vivre sans règles. Le problème, c'est celui-là. Les gens vivotent, les gens végètent dans une sorte d'existence où ils sont ballottés comme des roseaux, sans aucune personnalité. C'est pourquoi les gens ont difficile, à chaque fois qu'on prend des mesures pour que la vie soit normalisée, les gens vivent d'une certaine manière, les gens se rebellent tout de suite, ils s'écabrent. Parce qu'ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais connu de règles. Et ça, c'est terrible. Ça commence au foyer. Ça commence dans la maison. Il ne faut pas s'attendre à ce que la République fasse tout. Vous mettez les enfants, vous les abandonnez, ils deviennent des voyous. Oh, c'est la faute de la République. Vous devriez, nous devrions prendre soin. Car ils seront dans la société ce qu'ils sont d'abord dans nos maisons. Donc nous devrions établir des règles claires. Alors quand la Bible parle de courir selon les règles, eh bien elle parle des principes de conduite du royaume de Dieu. Elle parle de la loi de Dieu. Courir selon les règles, eh bien c'est courir selon la loi de Dieu. C'est courir selon les principes de conduite inspirés par la parole de Dieu. C'est très simple. C'est tellement simple que les gens ont de la peine à croire. Ou ils ont l'impression que nous nous répétons. Nous demandons tout le temps aux gens de revenir à la parole de Dieu. Et puis avec le temps, ça devient redondant, c'est fatigant. Ils aimeraient entendre autre chose. L'ordre de Melchisédek. On pense que c'est une révélation. On va dans tous les sens. J'ai même entendu qu'il y en a qui parlent du dédoublement. Mais ça, c'est une terminologie occulte, ésotérique. Les gens n'ont plus rien à donner au peuple de Dieu qu'ils se tournent vers les choses du monde. L'ordre de Melchisédek. On en fait tout un foin. On tourne autour, on a l'impression qu'on a reçu une nouvelle révélation. Je vais vous dire une chose, il y en a qui sont au ciel, qui n'ont jamais entendu parler de Melchisédek. Parce qu'ils ont cru simplement en Jésus. Nous sommes sauvés par notre foi totale et entière dans la personne de Jésus et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Nous ne sommes pas sauvés par toutes ces, par le savoir, qu'il soit théologique ou autre. Non. Mais non, dans cette marche avec le Seigneur, nous avons besoin de recevoir certaines révélations, certaines lumières. Mais cette lumière ne peut être, ou ces lumières ne peuvent être véritablement lumière qu'à la lumière de la lumière grand L. En d'autres mots, ces lumières conduisent, doivent conduire impérativement, de manière inéluctable, à la lumière. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, par ta lumière, nous voyons. Donc toutes ces révélations devraient nous conduire à la véritable lumière, et non pas créer des sentiments qui nous empêcheraient d'avancer, susciter le doute, voyez-vous, le doute par rapport au salut. Oh là là, on ne m'a jamais enseigné qui est Melchisédek. Dieu ne vous demandera jamais qui il était. Vous savez ça? J'aimerais vous rassurer. Il ne vous demandera jamais toutes ces choses cachées. Vous savez, le propre des sectes, c'est ça. C'est de vouloir aller fouiller partout, là où la Bible ne dit rien, où la Bible se tait, et ils veulent apporter de la lumière. La Bible ne nous dit pas ce que le Seigneur a fait avant qu'il commence son ministère. Jusqu'à 12 ans, nous le trouvons. Mais après 12 ans, jusqu'à 30 ans, est-ce que vous trouvez des choses dans la Bible? Non. Alors là, les sectes vont trouver un créneau qu'elles vont essayer d'exploiter. Voyez? Là, toutes sortes de doctrines vont naître. Voyez? Parce que nous n'avons aucun moyen de vérifier. Ce n'est pas important. Ce qui nous a été donné, voilà ce dont nous avons besoin pour notre salut. Gloire au Seigneur. Ne vous perdez pas, mes amis. La Bible nous met en garde. Celui qui ne demeure pas dans la doctrine du Christ et va au-delà, perd le salut. Hein? Vous allez vous retrouver à vous embrasser avec les anges et après. Je n'ai pas besoin d'être embrassé par un ange. Je suis constamment dans les bras du Père. Et cela me... Alors qu'on vient de me dire, non, l'ange Gabriel ou l'ange Raphaël est en train de donner l'huile d'olive à Kimbasek. Je n'irai jamais. Qu'il donne ça aux pauvres pour que les mamans préparent, ça va. Donc, marcher selon les règles, c'est marcher selon les principes de conduite inspirés par la parole de Dieu. C'est marcher selon la loi de Dieu. Donc, si nous voulons gagner la course dans laquelle nous sommes engagés, si nous voulons véritablement lutter et espérer recevoir une couronne en ce jour-là, nous devrions alors, mes amis, nous devrions alors nous laisser conduire par les principes de la parole de Dieu, par les principes tels que nous le trouvons dans la parole de Dieu. Ces règles selon lesquelles nous sommes censés marcher pour finalement être couronnés sont donc des principes spirituels que nous trouvons dans la Bible, des principes qui nous viennent de la loi de Dieu. Encore la Bible et toujours, voilà. Le chemin du salut, le chemin de la vie nous conduit toujours vers la parole de Dieu, jamais au-delà. Gloire à Dieu. Bref, c'est en luttant, c'est en combattant, c'est en courant selon les principes de la parole de Dieu que nous allons poursuivre notre course avec l'espoir de recevoir la couronne. Alléluia. Si tu vis selon les principes de la parole de Dieu, si tu marches selon la loi du royaume de Dieu, eh bien, sois assuré, mon frère, qu'au terme de ton voyage, une couronne t'attend. Alléluia. Courir selon les principes de la parole de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est prendre le chemin que le Seigneur a déjà tracé. C'est prendre le chemin dont le terme est le couronnement. Dont le terme est quoi? Recevoir la couronne. Et pour cela, ce chemin-là que le Seigneur a tracé n'est autre que le chemin de la sanctification. Encore la sanctification. est toujours la sanctification. Gloire au Seigneur. La sanctification, voilà donc, mes amis, la course selon les règles du royaume de Dieu. Ce que Paul a voulu dire à Timothée, ce qu'il a voulu dire à l'Église, et ce qu'il a voulu dire à chacun de nous, ce que nous puissions comprendre, que la course dans laquelle nous sommes engagés, eh bien, est une vie de sanctification, que nous sommes appelés à avancer, et nous ne pouvons pas avancer si nous ne prenons pas ce chemin de la sanctification, ce chemin qui nous permet de ressembler davantage à Jésus-Christ. Car cette sanctification n'est pas un Oscar que le Seigneur donnerait à certains, pas du tout. La sanctification, c'est le processus par lequel le Saint-Esprit, par le moyen de la parole de Dieu, nous rend de plus en plus semblables à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est dans notre vie de tous les jours. C'est ça la sanctification. Elle n'a rien à voir avec la perfection. Car de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Voyez-vous? Nous sommes donc, nous nous sanctifions dans la mesure où nous nous soumettons à la... Excusez-moi, donnez-moi un peu de l'eau. Nous nous soumettons à la parole de Dieu et nous marchons par l'Esprit du Seigneur. Si nous marchons de cette manière, alors, mes amis, nous courons selon les règles que le Seigneur a établies. Et en courant selon ces règles-là, eh bien, nous pourrions être sûrs d'une chose, c'est qu'au terme de cette course, nous recevons une couronne. Gloire au Seigneur. Car la conséquence majeure de la sanctification des gens maintenant, c'est-à-dire la conséquence d'être de plus en plus séparé de la présence du péché et de plus en plus consacré au Seigneur, la conséquence majeure, c'est que nous devenons, écoutez-moi bien, nous devenons une couronne éclatante dans la main du Seigneur. C'est-à-dire notre vie devient une couronne. Et ceci, décidément, la sanctification va transformer nos vies et va faire en sorte que nos vies deviennent de couronnes éclatantes, de couronnes splendides, magnifiques, dans la main du Seigneur. Voilà la première chose. Et ne peut espérer recevoir une couronne au terme de son voyage ici-bas que celui dont la vie déjà maintenant est une couronne éclatante dans la main du Seigneur. En d'autres mots, il faut d'abord et avant tout être couronne dans le temps pour espérer recevoir une couronne dans l'éternité. Et courir selon les règles, c'est marcher dans la sanctification, c'est vivre selon les principes de la parole de Dieu, car ces principes vont donc nous impacter, vont nous métamorphoser, et vont donc faire en sorte que nos vies puissent rayonner, nos vies puissent devenir une couronne qui va réjouir notre Dieu, une couronne dans la main de notre Seigneur. Et en marchant, en vivant de cette manière, nous pourrions alors espérer recevoir la couronne incorruptible en ce jour-là. Donc, la priorité n'est pas tellement, mes amis, de se projeter dans l'éternité pour le couronnement, car le couronnement dans l'éternité dépend de ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, « Eh bien, cours selon les règles. Plus tard, alors, tu recevras la couronne de justice. » Être une couronne aujourd'hui, eh bien, voilà la condition qu'il faut remplir pour espérer avoir une couronne dans l'au-delà. Si votre vie aujourd'hui n'est rien, même si vous venez dimanche après dimanche à la borne, et que vous continuez à vivre selon le monde, eh bien, vous ne réservez rien ce jour-là. La condition alors, sine qua non, pour pouvoir recevoir la couronne à laquelle le Seigneur destine tous ses enfants, c'est qu'il faut déjà aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre marche avec le Seigneur, faire tout pour que nous devenions de couronne dans la main du Seigneur, pour que nos vies soient des rayons entre les mains du Seigneur. Nos vies explosent entre les mains du Seigneur. Nos vies brillent entre les mains du Seigneur. Bref, que nos vies soient des couronnes entre ses mains. Alors, mes amis, nous pourrions espérer recevoir la couronne en ce jour-là. Autrement, nous pourrions faire tout ce que nous voulons. Et quand nous arrivons de l'autre côté, nous serons surpris. Il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. Voyez-vous ? Car il faudra que nous passions tous par l'épreuve du feu. Si notre vie n'aura été que du bois, du foin, eh bien, en passant par l'épreuve du feu, nous perdrons tout. Nous serons simplement des citoyens dans le royaume de Dieu, mais sans aucune récompense. Voyez-vous, mes amis, le but ce n'est pas simplement d'être sauvé, mais le but c'est de courir selon les règles afin de remporter le prix. Il y a donc une couronne qui nous est réservée. Il y a une récompense au terme de notre voyage ici-bas. Ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous appelle à la sanctification, parce que la sanctification va donc transformer nos vies en couronne dans sa main et va nous permettre d'espérer recevoir plus tard la couronne de sa part. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrivant aux Thessaloniciens, lui qui a été une couronne dans la main du Seigneur et qui va finir par recevoir la couronne incorruptible, comme lui-même le dit et nous le verrons plus tard, eh bien cet apôtre du Seigneur, Paul, a dit ceci aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour votre vie, c'est votre sanctification. Mes amis, il n'y a pas de succès d'année à la sanctification. Ce que Dieu veut, si nous venons dimanche après dimanche, c'est pour recevoir la parole et la mettre en pratique, afin que par la mise en pratique de la parole, nous soyons rendus semblables au Seigneur. Si nous venons vendredi après vendredi, mercredi après mercredi, si nous sommes fidèles à toutes nos réunions, c'est parce que, mes amis, Dieu a un travail qu'il est en train d'accomplir en nous. Il est en train de nous métamorphoser à son image. Il est en train de transformer nos vies pour qu'elles deviennent une couronne. Et devenant des couronnes dans sa main, nous pourrions alors espérer recevoir la couronne par excellence quand nous serons dans son ciel de gloire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et l'apôtre ajoute, et je reviendrai là-dessus, ce que vous vous absteniez de la débauche. Certaines versions disent la débauche, d'autres disent de l'inconduite. Mais le terme qu'on trouve ici en grec, c'est le terme porneia, qui a donc donné pornographie. Ça tourne autour de tout ce qui est sexuel. Que ce soit la fornication, que ce soit les rapports sexuels avant le mariage ou en dehors du mariage. La Bible nous met en garde, mes amis. Et quand nous parlons de ça, nous ne voyons pas seulement l'acte. Jésus nous a dit que quiconque convoite une femme a déjà commis. Voyez-vous, mes amis, tout commence dans nos pensées. Et quand nous parlons de sanctification, nous ne parlons pas simplement de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas commettre les actes abominables, mais nous parlons également de la pureté de nos pensées. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte et nous dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne du Seigneur, soit l'objet de vos pensées. Il y a des gens qui n'ont jamais commis ces actes ignobles. Mais en pensée, ce sont des véritables immoraux. Ils ne peuvent pas voir un homme ou une femme sans s'imaginer toutes sortes de choses. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Courir selon les règles, courir selon la loi de Dieu, c'est vivre dans la sanctification. Il n'y a rien qui remplace cette vérité, car c'est par la sanctification, au travers de la sanctification, par ce processus que le Seigneur va nous travailler, va nous modeler, va nous émonder, va nous métamorphoser et faire en sorte que notre vie, chaque jour qui passe, lui ressemble de plus en plus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc la priorité, ce n'est pas de courir après le couronnement ultime, mais la priorité, c'est de courir c'est de combattre, c'est de lutter en vue de devenir déjà maintenant une couronne dans la main du Seigneur. Lorsqu'il jette ce regard ici à la borne, que voit-il? Voit-il autant de personnes, autant de couronnes que de personnes qui sont présentes? Ou ne voit-il que quelques couronnes dans sa main? Mes amis, nous vivons des temps très très difficiles. L'ennemi travaille. Les portes de l'enfer s'ouvrent de plus en plus. L'ennemi repense sa fuite immorale sur l'humanité. Le diable est à l'œuvre. Il sait que son temps est compté. Il est en train de distraire l'Église, de distraire l'humanité. Parce qu'il sait que très bientôt, la trompette va sonner. Et dans ce temps de la fin, mes amis, nous avons tout intérêt à rester attachés à la parole de Dieu, à accepter simplement les prescrits bibliques tels que le Seigneur nous les a laissés, et à éviter de vouloir recourir à des espèces de casuistiques qui vont nous amener à vouloir trouver toutes sortes d'explications extra-bibliques pour justifier notre comportement. Pour Dieu, le péché est péché. Il n'y a pas de demi-péché. Il n'y a pas de péché véniel. Non, de petits, de moins, de grands, de super, de méga péchés. Le péché est péché. Et nous devrions avoir de la haine vis-à-vis du péché. D'abord en pensée. Le péché sous toutes ses formes. On trouve normal de ne pas parler à son frère. Et on vient dans la même église, on prie ensemble. Vous trouvez normal? Dites-moi. On vient avec un cœur serré. On ne veut pas regarder sa sœur. C'est une attitude abominable. C'est que Dieu veut, c'est ta sanctification. Fais le pas, réconcilie-toi. Nous verrons ça dans notre séminaire. Dieu travaille là où il y a l'unité. L'unité avec lui d'abord. Et il ne peut pas avoir unité avec lui s'il y a le péché. Car le péché nuit gravement à notre relation avec le Seigneur. Mais aussi l'unité parmi son peuple. Au verset 15 du chapitre que nous avons lu, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu. » Après lui avoir dit qu'il était important de courir comme un athlète dans le monde, qui court selon les règles, avant d'être couronné, il exhorte, il lui demande de courir aussi selon les règles de la parole de Dieu. Quand il arrive au verset 15, il lui dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu. » Oh, mes amis, s'il y a un message qui reste valable, qui transcende le temps et l'espace, c'est celui-là. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu. » Mais qu'est-ce qui va nous aider à nous présenter devant Dieu si ce n'est qu'une vie sanctifiée? Tout commence par là. Ça ne sert à rien de vouloir courir s'il y a encore des choses, des casseroles remplies de toutes sortes d'immondices, toutes sortes de choses terribles dans nos vies. Commençons non seulement par vider ces casseroles, mais aussi par nous débarrasser de ces casseroles. N'est-ce pas? Il y en a qui ont vidé ces casseroles de haine, ces casseroles de jalousie, ces casseroles de conflits, etc. Mais ils ne se sont jamais débarrassés de ces casseroles. Alors quand ils marchent, ça fait quoi? Ça fait du bruit. Et les démons aiment ça. Ouais. Et ils sont prêts à venir de nouveau les remplir. Le but, c'est de non seulement de vider ces casseroles, de ces sentiments terribles, de ces sentiments impurs, de ces péchés que Dieu condamne. Mais le but, c'est de nous débarrasser complètement de ces casseroles et d'être entièrement en Christ. Alléluia. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Il y a donc un effort. Dieu n'agit pas avec l'homme comme nous agissons avec notre ordinateur. Voyez, nous prenons la souris, nous bougeons, l'ordinateur est là, et puis c'est tout. Il n'y a pas une interaction. L'homme a toujours sa part à faire. Efforce-toi, Timothée, C'est dur. Efforce-toi. Le Seigneur est là pour te fortifier. Voyez. Efforce-toi. Alors, a-t-il voulu lui dire, alors à la fin, tu pourras être couronné. Il n'y a pas de couronnement possible à la fin tant qu'il n'y a pas, mes amis, une vie de sanctification en amont. Revenons toujours à l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il nous dit à la fin de ce chapitre? Il dit ceci, le moment de mon départ arrive. Il est en prison à Rome, comme je l'avais souligné en introduction à ce message, il y a 2 ou 3 semaines d'ici. Il est en prison, il a déjà été jugé une première fois, il n'a pas été condamné tout de suite, il y a eu peut-être vice de procédure, en tout cas, on ne connaît pas la raison. C'est ainsi qu'il aura l'occasion d'écrire, car s'il avait été condamné tout de suite, il n'aurait pas eu le temps d'écrire à Timothée et de nous laisser toutes ces perles merveilleuses de la parole de Dieu. Il attend sa mort, cette fois-ci c'est décidé. Et il dit à Timothée, le moment de mon départ approche. Et il ajoute, j'ai combattu le bon combat. Cette fois-ci, il parle au... J'ai combattu. Je me suis efforcé de me présenter devant Dieu. J'ai tout fait pour que ma vie soit une couronne dans sa main. Et là était, car pour lui j'ai tout enduré. Pour lui j'ai tout perdu. Pour lui j'ai été humilié. Eh bien, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. Il est au terme de sa vie. Bientôt, il va être pendu. Bientôt, il va mourir. Et il sait que c'est fini. Fini. Il va quitter ce corps d'humiliation. Il va quitter ce corps de souffrance. Bientôt, il va aller rejoindre son Seigneur. Celui pour qui il a vécu. Pour qui il a tout connu. Et il ajoute, j'ai gardé la foi. Comme pour dire, dans ce combat que j'ai combattu, dans cette course que je viens d'achever, il y a un élément qui m'a accompagné, qui m'a permis de tenir ferme jusqu'au bout. C'est la foi. Alléluia. Sans la foi, mes amis, aucune victoire dans ce combat. Sans la foi, aucune course ne pourra être menée jusqu'à son terme. Car la foi, eh bien, c'est quoi? C'est la marche selon la parole de Dieu. Et il ajoute, j'aime beaucoup ce passage. Et à chaque fois que je le lis, j'essaie de m'imaginer un peu les sentiments que l'apôtre avait alors qu'il vivait ses dernières heures sur cette terre. Certes, il y a toujours l'homme. Évidemment, il avait la famille, hein? Il avait sa sœur, vous vous rappelez? Il n'était pas tombé du ciel comme ça, hein? Ni sorti des entrailles de Vénus. Il est né comme vous et moi. Donc il devait avoir des cousins, oui ou non? Même s'il n'en parle pas, il ne faut pas s'attendre à ce que la Bible soit une sorte de bibliographie au sens moderne du terme. On dirait tout. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui ont cette approche-là. Oui, mais on ne parle pas de sa grand-mère. Oui, mais qu'est-ce que... Il nous a laissé ce qui est essentiel. Évidemment, il y a tout ce côté, il va devoir quitter son peuple d'Israël, pour lequel il a prié, il a tout fait pour que ce frère juif abandonne la tradition morte, qu'il continue à observer de manière mécanique pour se tourner vers le Messie. Mais en même temps, il est heureux de pouvoir enfin être délivré de ce corps, de pouvoir enfin aller rejoindre son maître. Et il ajoute ceci au verset 8 de 2 Timothée chapitre 4. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Oh, ça c'est ma prière. Je voudrais qu'un jour, au terme de ma vie, je puisse rejoindre l'apôtre Paul dans ses déclarations. Et je voudrais que ça soit votre prière. Lorsque l'heure s'approchera de pouvoir enfin quitter cette terre de misère, cette terre marquée par le péché, et de s'en aller auprès du Seigneur, que vous puissiez dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Je viens d'achever ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. bref, ne recevront la couronne incorruptible, la couronne d'or, la couronne de vie, la couronne de justice. Ne la recevront à la fin que ceux, mes amis, dont la vie aura été une couronne éclatante, une couronne glorieuse, une couronne splendide dans la main du Seigneur. Alors, le but, l'objectif maintenant pour chacun de nous, c'est de tout faire par une vie de sanctification pour que sa vie soit une couronne entre les mains du Seigneur. Car nous sommes appelés, je terminerai par là, nous sommes appelés non seulement à réussir dans la vie, mais à réussir sa vie. La nuance est détail. C'est une chose de réussir dans la vie, mais ça n'est une autre de réussir sa vie. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, mais qui n'ont pas réussi leur vie. Il y en a qui ont fini par se suicider. Ils se sont lancés dans une carrière, ils ont bossé dur, ils ont récolté le fruit de leur travail, ils ont eu la célébrité, la gloire d'ici-bas, mais pour n'avoir pas réussi leur vie, ils n'ont jamais goûté, ils n'ont jamais expérimenté le bonheur, ils ont fini par se suicider. Vous avez entendu, vous avez connu des célébrités comme la chanteuse française d'origine grecque, là, égyptienne, qui s'était suicidée il y a presque 30 ans d'ici, alors qu'elle avait tout. Mais elle s'est suicidée. Tant d'autres se sont suicidés, n'est-ce pas? Pourquoi? Ces gens ont réussi dans leur carrière. Ils ont réussi dans la vie, mais n'ont jamais réussi la vie. Et nous réussissons la vie lorsque nos vies sont des couronnes éclatantes entre les mains du Seigneur. Alléluia. Là, nous réussissons nos vies. Que Dieu soit béni. Alléluia. Car le monde est méchant. Le monde cherche à nous détruire. Si nous ne remportons pas la couronne, si notre vie n'est pas une couronne aujourd'hui, eh bien nous n'avons rien à espérer dans l'éternité. On aura beau organiser des meetings, des canonisations, des béatifications, tout ce que vous voulez, ça pourra faire du bien à certains, mais ça ne pourra jamais changer le destin de l'homme. Après la mort, eh bien la vie de l'homme se trouve désormais entre les mains du Créateur. C'est maintenant, c'est aujourd'hui où nous devons tout faire. Voyez-vous, il y a des gens, malgré ce que le Seigneur essaye de faire pour eux, ils se cabrent, ils viennent un temps et puis ils abandonnent. Je me souviens de cette dame, je terminerai par là. Elle était venue me voir, elle était veuve. Elle passait par des moments difficiles. Et puis en parlant avec elle, elle me dit, mais je ne comprends pas ce que je fais dans la vie. Mais vous savez, vous n'avez pas à faire quelque chose dans la vie pour que la vie voisse. Alors elle me raconte une histoire terrible. Et je peux vous assurer, il y a des malheurs terribles qui arrivent comme ça. Il dit, mon mari venait de mourir. Son mari est décédé à la maison. Et comme ils avaient une maison en étage, il est décédé au premier étage, au premier niveau. Je ne sais pas s'il avait fait une crise. Et bon, elle a appelé le funérarium. Les gens des pompes funèbres sont arrivés. Donc, pour prendre la dépouille et l'amener au funérarium. Ils ont pris la dépouille de son mari, ils l'ont placée dans la bière, dans le cercueil. C'était donc deux agents de pompes funèbres. Et puis ils se mettent à descendre les escaliers. Alors on ne sait pas ce qui est arrivé. Une des personnes qui transportait le cercueil a raté, je ne sais pas, la marche. Elle est tombée, elle est décédée. Oui. Oui, c'est terrible, hein? Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pitié d'elle. Ouais. Et le cercueil est resté, parce qu'il a fallu faire venir les pompiers pour intervenir. Ils sont arrivés pour animer, c'était trop tard. Donc celui qui est venu chercher le cercueil, lui aussi, est... On a d'abord eu arrêté parce qu'il fallait que le médecin légiste vienne pour faire le constat.
Un deuxième cercueil est arrivé.
Et de sa maison, deux cercueils sont sortis.
Je lui ai expliqué, je lui ai dit, vous savez, je lui ai fait comprendre la nécessité. Effectivement, il est venu à l'église, mais bon. Vous savez, les Mindele, ce n'est pas facile. De nouveau, gagnée par l'amour du monde, elle est repartie. Elle s'est laissée remorquer par un gars. Donc, elle a préféré trouver un autre homme pour vivre avec que... Et puis un jour, ça sera encore... Qu'elle ne soit pas étonnée si un jour, il y a encore autre chose qui lui arrive. Donc, vous voyez, nous devons faire très attention quand nous sommes en Christ. Non seulement nous réussissons dans la vie, mais nous réussissons là. Alors, nous allons nous lever et nous allons prier. Pour que le Seigneur nous aide à devenir de couronne éclatante dans sa main, c'est alors que nous pourrions espérer recevoir de couronne la couronne de justice, la couronne incorruptible en ce jour-là.
Et nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide à combattre selon les règles. Alors que nous combattrons selon les règles, nous serons utiles pour son œuvre. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu nous as encore enseigné ce soir que tu veux de nous des athlètes qui courent en observant les règles que toi tu as prescrites. Seigneur, alors que nous courons suivant les règles, nous marcherons dans la sanctification. Car ce que tu veux de nous, c'est la sanctification. Ce que tu veux de ton peuple, c'est la sanctification. Seigneur, tu veux que nous soyons des couronnes dans les temps pour être des couronnes dans l'éternité. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui marchent selon toi. Donne-nous d'être de ceux qui gardent le regard fixé vers toi. Donne-nous, ô Dieu de gloire, oui, de ne pas marcher selon la vue, mais selon la foi en Jésus. Seigneur, alors que nous marcherons selon la foi, alors que nous observerons les règles, l'unité régnera dans ton Église. Seigneur, merci pour ta parole. Elle ne rentrait pas, ô Dieu, à toi sans qu'elle accomplisse pourquoi elle a été annoncée. Seigneur, nous savons que ta parole touche nos cœurs, que celle-ci nous transforme. Merci Jésus. Seigneur, nous te recommandons également nos dîmes et nos offrandes. Et nous prions à ce que tu les agrées, ô Dieu. Bénis toute l'humain qui te donne. Bénis également celle qui manque à te donner, afin que la gloire ne revienne qu'à toi. Et à toi seul, au nom de Jésus. Amen.